Bienvenue dans Expat Heroes, le podcast qui vous donne de l'énergie pour relever les défis de l'expatriation. Je suis Christina Philippa Rojo. Expatriée pour la troisième fois, en ce moment en Angleterre, j'ai décidé de montrer la réalité de l'expatriation loin des clichés au travers d'interviews de francophones expatriés et d'experts de la mobilité internationale. Vous trouverez dans ce podcast la dose d'inspiration nécessaire pour partir en expat, seul ou en famille, et surtout des conseils avisés pour bien s'adapter et se réaliser à l'étranger. Bonne écoute! Expat Heroes. S'adapter, se réaliser à l'étranger. Vous écoutez l'épisode 92 du podcast Expat Heroes. Cette fois, on part au Chili à la rencontre de Florence Bouchat qui a fondé l'agence de voyage Travel Coach Chile. Elle se confie à mon micro sur cette terrible épreuve de la Covid-19 qui a mis à mal son activité. Malgré tout, elle s'est accrochée et elle n'a rien lâché. Parce que cette activité signifie énormément pour elle. En quête de sens, elle a en effet lâché son job dans la finance pour lancer cette agence de voyage. Comment a-t-elle réussi à faire ce switch entre salariat et entrepreneuriat? Où est-ce qu'elle trouve l'énergie pour ne rien lâcher? Mon entreprise à l'étranger à l'épreuve de la Covid-19, Florence nous raconte et nous fait voyager en deuxième partie au Chili, bien sûr. C'est tout de suite dans Expat Heroes. Bonjour Florence.
Bonjour Christina.
Tu es la fondatrice de Travel Coach Chile depuis février 2018. Donc, c'est une agence de voyage locale spécialisée dans les circuits sur mesure au Chili et en Argentine. Comment est-ce que tu as vécu cette pandémie mondiale liée à la Covid-19, Florence?
Bon, une grosse question d'entrée de jeu.
Ouais, je commence par
Non, mais c'est très difficile. Là, au moment où on enregistre, ça fait 14-15 mois que la pandémie a débuté et au Chili, on a l'impression d'être quasiment au même stade que l'année dernière. Alors certes, la vaccination a très bien fonctionné, mais on est revenu en quarantaine totale. On n'a pas le droit de sortir de chez nous. Je pense qu'on, enfin moi personnellement, c'est l'impression qu'on m'a un peu mis ma vie entre parenthèses pendant plus d'un an. J'en peux plus. Et alors, je dois dire qu'au niveau professionnel, c'est pareil, on a mis la boîte en pause quasiment pendant un an. Alors moi personnellement je ne l'ai pas mis en pause parce que j'ai continué à faire beaucoup de choses, mais la réponse c'est comment je l'ai vécu, mal.
Bah oui, tu es restée en mouvement, hein. Tu disais moi je ne me suis pas arrêtée parce que quand on en a discuté, tu visais plutôt les touristes francophones au début, donc explique-nous comment tu as maintenu quand même ton activité pendant cette période.
On a toujours été ciblés sur les touristes francophones ou français, belges, qui venaient d'Europe. Donc, quand la pandémie est arrivée, on a commencé par devoir rapatrier 30-40 personnes. Enfin, c'était le branle-bas de combat général. Il n'y avait plus de vol et tout. Puis après, est venu le calme plat. Donc, il y a un an, en juin 2020, on a commencé à se dire, est-ce qu'il ne faudrait pas trouver une autre stratégie? Alors, ça ne s'est pas fait tout de suite. Hein. C'est vrai que je suis restée active dans le sens où on a refait complètement le site Internet. On a mené des actions marketing, enfin, on a fait du travail de fond qui a fait du bien aussi, parce qu'on n'a jamais le temps, parfois, en tant qu'entrepreneur, de faire tout ça. Et puis, pour la saison d'été chilien 2020, donc à partir de novembre, on s'est adressé beaucoup plus au marché local francophone, les expatriés et aussi un petit peu les anglophones. Alors, on était déjà un petit peu présents sur le marché, mais là, on a vraiment renforcé, on a créé un peu des nouvelles offres, des voyages encore plus proches de l'habitant, des expériences locales, et on a rebondi sur le marché local.
Oui, parce que du coup, les expatriés, ils sont sur place, donc il n'y avait pas les contraintes de voyage à gérer. Est-ce qu'avec ton compagnon, au départ, tu es arrivée au Chili pour un poste de consultante en risk management pour le célèbre cabinet d'audit Ernst & Young, donc rien ne te prédestinait a priori à te lancer dans le tourisme. Donc, qu'est-ce qui t'a fait bifurquer sur cette voie et entreprendre dans le tourisme?
Oui, c'est vrai que ça me paraît déjà une autre vie, mais... Oui, j'étais en recherche de sens professionnel et mon travail me correspondait et m'apportait des choses à certains égards au niveau intellectuel, c'est assez riche, au niveau équipe, j'aimais bien. Et vraiment, j'ai redécouvert en fait mon métier en venant au Chili. C'était très différent du côté très structuré de l'Europe. Et finalement, ici, ça donnait plus de possibilités, notamment au niveau leadership. J'ai vraiment apprécié. Mais il y avait cette question du sens qui ne me lâchait pas. Et finalement, ça annihilait tous les côtés positifs. Et voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et je pense que j'avais peut-être toujours eu cette idée d'un jour être entrepreneur, mais finalement, je sais pas, en Europe, il y a énormément de pression. Le jour où tu veux lancer ta boîte, tu dois lancer une start-up, tu as intérêt à réinventer Facebook ou Google pour que ça vaille quelque chose, et puis il faut du capital. Enfin, c'était une idée que j'avais complètement mis de côté. Et c'est l'expatriation, en voyant qu'ici, tout était possible, qu'on donnait vraiment la chance aux entrepreneurs, tout était facilité, que c'est peut-être le fait d'être un peu plus loin de ma sphère sociale la plus proche, peut-être que ça fait aussi une pression. Et le fait d'être loin m'a permis d'oser pour donner du sens. Mais je ne l'ai pas fait comme ça du jour au lendemain. Je l'ai fait au travers de Switch Collectif. Donc, c'est un coaching et ça m'a vraiment donné un coup de pouce.
Oui, alors Switch Collectif, hein, c'est un bilan de compétences qui est basé sur son Ikigai. Alors, l'Ikigai, c'est une philosophie de vie japonaise qui consiste à trouver un sens à sa vie, un équilibre, une raison de se lever le matin et d'être heureux chaque jour. Est-ce que toi, tu recommandes ce coaching ou c'était juste pour toi, finalement, une façon de te rassurer sur un chemin, quoi, sur le chemin de l'entrepreneuriat ?
Pour moi, franchement, ce truc, ça a tout changé. Je l'ai fait. Et en fait, dès les premières semaines, je me suis dit, mais je ne suis pas la seule à me poser ces questions-là. Ça a déjà été super révélateur, donc ça m'a vraiment encouragée. C'était la main dans le dos, tu vois, la main dans le dos dont tu as besoin pour avancer.
Ouais.
Donc, en ce sens, ça, je ne sais pas si j'aurais été capable, si j'aurais eu le courage de le faire sans avoir cette structure, cet accompagnement. Alors, le truc, je pense, s'appelle Switch Collectif, pas pour rien. Je pense qu'ils mettent beaucoup l'accent sur la force du collectif. Donc, bah, dans mon cas, ça a marché. Donc, c'est vraiment le fait d'oser, le fait de me dire c'est normal d'avoir envie de donner du sens à sa vie professionnelle. Je ne suis pas un ovni. Ça, c'est ce qui a changé. Le deuxième aspect où ça m'a beaucoup aidé, c'est finalement de mettre le doigt. Bon, effectivement, à la fin, tu arrives un peu sur son pourquoi, enfin, sur l'ikigai, sur une espèce de mission de vie. Et je pense que ça, c'est quand même difficile. Et actuellement, j'ai une mission de vie que je remplis au travers de Travel Coach, mais les choses peuvent changer, évolueront sans doute. Et j'ai vraiment bien aimé avoir ce cadre pour orienter ma réflexion et finalement trouver du sens, en tout cas pour l'instant. Et depuis que j'ai lancé, je trouve du sens. Ils insistent aussi sur le flow, être dans le flow, être dans l'instant présent. Et c'est quand même des choses qui m'ont vraiment aidée.
Comment ont réagi tes proches quand tu leur as dit « Moi, je me lance dans ce coaching et puis surtout, je veux entreprendre. Je ne sais pas encore dans quoi, mais je veux entreprendre. » Comment ils ont réagi ?
Au moment du coaching, je pense que personne ne réalisait vraiment. Ouais. Au moment où j'ai dit que j'allais entreprendre, en fait, ça m'a un peu même surpris. La plupart des gens ont vu ça comme une évidence. Ah. Il n'y a quasiment personne. Oui. C'est un peu
une surprise, finalement.
Oui, mais surtout
quelque chose que tu ne t'autorisais pas et les autres se disaient, mais en fait, pourquoi tu ne l'as pas fait avant, quoi ?
Exactement. Non, mais c'est ça. C'est qu'en fait, avant de franchir le cap, moi, personnellement, c'est ce que j'avais découvert dans le coaching, tu passes quand même beaucoup de temps à avoir finalement peur du regard des autres. Mm. J'imagine que je ne suis pas la seule à être dans ce cas. Et puis au final, quand tu le dis, les gens sont là, c'est génial. Il y a même des gens qui m'ont dit, de toute façon… Je t'ai toujours vu entreprendre. Il y en a d'autres qui m'ont dit, de toute façon, avec toi, je suis sûre que ça fonctionnera. Alors, du coup, ça m'a mis une pression parce que j'étais là, mais moi, je ne suis pas sûre que ça va fonctionner du tout. Et bien réagi.
Oh, génial.
Bien réagi. Et j'ai un peu une anecdote aussi dans ce process qui a quand même duré 6-7 mois entre que l'idée soit plantée et qu'elle germe. C'est vrai que j'avais eu une discussion. J'étais rentrée en Belgique un mois. J'avais une discussion avec ma mère. Et je parlais un petit peu de ça. Et en fait, c'est elle qui m'a dit… On était en train de monter pour, tu sais, avant d'aller dormir. Et puis, j'aborde un peu le sujet vite fait. Et elle m'a dit, non, mais attends, je redescends donc. Et en fait, elle m'a vraiment dit, non, mais il ne faut pas que tu aies le regret, là.
Et elle sentait que tu hésitais peut-être.
Oui, et tu vois, il suffit parfois des moments décisifs comme ça, tu sais qu'il y a eu un avant et un après, et
c'est ça.
Je l'ai fait et j'ai pas de regrets. Et c'est vrai que c'est génial aussi de pas avoir de regrets. Enfin, c'est un cool sentiment.
Ouais, parce que enfin, avec toutes ces épreuves, avec le Covid, tu aurais juste pu lâcher, quoi.
Oui.
Ouais, ça t'a traversé l'esprit.
Non, 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 parce que je pense que j'ai un caractère hyper fort de battante, mais aussi parce qu'en fait, comme j'avais fait tout ce travail de réflexion de fond sur le sens que je voulais y donner, je fais ce que j'ai envie de faire, quoi. Donc,
ouais, voilà, c'est là où tu puisses ton énergie dans ton pourquoi.
C'est ça, exactement, voilà. Et ça, je suis aussi assez reconnaissante d'avoir mis, pour l'instant, en tout cas, le doigt sur ce qui me fait vraiment vibrer, parce que c'est ça aussi, je pense, qui me donne l'énergie.
Ouais.
Au quotidien, dans la difficulté.
Ouais. Et comment s'est passée la transition d'un point de vue financier entre ton statut de salarié et l'entrepreneuriat? Il y a plein d'auditeurs qui doivent se dire, ouais, ok, sur le papier, c'est cool, mais comment on fait, quoi? Est-ce que toi, tu as négocié une démission avec un matelas financier de sécurité ou...
Oui, j'ai quand même eu de la chance à ce niveau-là. Il y avait un programme qui existait donc chez Ernst & Young au Chili qui était 3 mois off. Tu devais le demander. Et dans mon département, ils avaient dit qu'ils l'octroyaient à une personne en même temps. Bon, c'était souvent des jeunes qui voulaient ça. Et je sais que la personne avant moi, elle avait fait 3 mois pour aller en Europe apprendre l'anglais. Et en fait, au moment où il y a eu ma démission, le directeur était un petit peu mal pris. Ça s'était aussi un peu fait, l'annonce en tout cas sur un coup de tête, même s'il y avait derrière une grosse réflexion, la façon dont je l'ai annoncé était peut-être un peu précipitée. Et donc, on a trouvé cet accord commun. Il est revenu vers moi en fait 10 jours après et m'a dit, tu sais, j'ai réfléchi, est-ce que tu ne voudrais pas ce programme-là? Comme ça, tu as encore le temps de réfléchir. Alors, c'est vrai qu'au Chili, on est vraiment sur un système de santé privé avec la pension. D'accord. Privée. Donc, quitter son boulot, ici, c'est un peu comme aux États-Unis, j'imagine, ouais. C'est quand même renoncer à une sécurité. Et on ne parlait pas juste de la rémunération. Il y avait les histoires de visa aussi. Donc, moi, ces 3 mois-là m'ont vraiment permis de dire, mais je ne me pose pas de questions pendant 3 mois. J'ai toujours mon système de santé, j'ai toujours ma pension. Dans 3 mois, je peux revenir, la porte sera ouverte. Et voilà. Et après, financièrement, c'est vrai que j'avais mis en place un petit système. J'avais calculé combien j'avais besoin par mois. Bon, j'avais aussi la chance d'avoir encore… J'ai toujours d'ailleurs mais mon conjoint qui lui, par contre, avait encore un revenu. C'est ça que je voulais dire. Et donc, ça, forcément, c'était aussi… Peut-être ça rassurait. Mais j'avais quand même calculé combien moi j'avais besoin pour me sentir indépendante, pour ne pas dépendre de lui.
Ouais.
Et j'ai quand même donné des cours de français pendant quelques mois pour donc vraiment que je faisais comme ça. Enfin, j'avais trouvé via des groupes WhatsApp, via des expatriés qui avaient besoin pour leur enfant de cours en français, de d'autres personnes qui voulaient apprendre le français. Et ça m'a permis d'avoir des revenus pendant quelques mois avant que Travel Coach se lance et soit rentable.
Oui, parce que avant de lancer le site, hein, tu me racontais ça, vous aviez déjà des clients en fait.
Ben, le jour où j'ai lancé le premier jour, j'ai lancé pour mon anniversaire et ouais, mais ça a été un hasard. J'avais posté ça sur le groupe parce que c'est vrai qu'on me demande tout le temps. Maintenant, on me demande tout le temps comment tu fais pour survivre, mais avant, on me demandait tout le temps comment tu as fait pour trouver tes premiers clients. Et j'avais écrit sur un groupe qui s'appelle Projet de femmes expatriées. J'avais présenté le projet et en fait, il se trouve que dans ce groupe, y avait une maman qui avait été expatriée, mais qui était revenue à Paris, qui avait son fils qui faisait un échange universitaire au Chili, à Valparaiso.
D'accord.
Et elle m'a écrit, elle a dit, bah, ton concept est génial, moi j'y vais dans 2 mois et demi, je suis peut-être ta prochaine cliente, on se parle.
Super.
Et ça a été génial, parce que moi, ça m'a permis de démarrer bien, et puis aussi de construire, tu sais, dans l'entrepreneuriat, on parle souvent de valider son idée et de façonner son offre aux besoins du marché. Et moi, cette expérience, cette première cliente-là m'a vraiment permis d'adapter. Parce qu'en fait, à la base, au début, Travel Coach, je voulais que ce soit plutôt ce qu'on appelle maintenant Travel Planner. Il n'existait pas trop à l'époque. Oui. Et en fait, le besoin auquel j'ai répondu, c'était plutôt d'avoir cette sécurité, cette garantie sur place. Et en fait, j'ai tout de suite adapté mon offre pour faire une agence de voyage.
D'accord.
Mais j'ai gardé évidemment le sur-mesure, l'authentique et le hors des sentiers battus qui étaient déjà là, mais j'ai changé le concept de juste organiser le voyage et le préparer à prendre en charge l'entièreté des services.
D'accord. Donc, c'est-à-dire que tu accompagnes les gens, enfin, tu vas les chercher à l'aéroport, ce genre de choses, tu les accompagnes dans les lieux de visite, comment ça se passe?
Moi, personnellement, non, mais oui, j'organise, j'ai une prise en charge à partir du moment où ils arrivent au Chili jusqu'à la fin.
D'accord.
Donc, que ce soit l'hébergement, les transferts, la location de voiture, éventuellement le chauffeur s'il y a besoin, bien évidemment la guide ou les guides, et ça dépend vraiment de où on va, quel type, par exemple en Patagonie, je trouve que le road trip se prête super bien. Dans le nord, ça dépend des gens, mais avoir un guide chauffeur, c'est pas mal, comme ça, tu as le côté mm-hmm. plus historique.
Et tu es le contact référence là-bas.
Et je suis le contact, voilà.
C'est un problème.
D'accord. Voilà, c'est moi qui les aide à choisir quels sont, on fait vraiment de la co-création, donc j'ai pas de restrictions au niveau du choix de mes prestataires et je propose plusieurs choses et on me dit ah, moi je préfère ça et j'organise et puis je garantis aussi que ça se passe bien, donc s'il y a un problème c'est aussi moi qu'on appelle et c'est moi qui trouve une solution.
Waouh, on entend la maîtrise totale du discours là, c'est ça donne envie hein. On va revenir un peu sur ta reconversion, c'est quoi ton plus gros kiff? Tu dois avoir un souvenir ou deux.
Ouais.
Tu dis ouais, je kiffe là, j'ai pris la bonne décision, je suis sur le bon chemin et je continue quoi.
Alors une fois que les choses roulaient un peu, parce que c'est vrai qu'au début t'as pas vraiment de routine. Enfin moi en tout cas j'avais pas de routine, c'était vraiment le début, tout est nouveau, donc c'était génial, mais c'était comme n'importe quel projet, nouveauté, le début d'une expatriation, tu montes un projet. Donc c'était particulier, mais au moment où j'avais une routine qui s'était installée quand même, et qu'en fait le dimanche soir t'as pas le syndrome du dimanche soir, en fait c'était ouais. Juste ah ouais, demain je vais au boulot, c'est génial. le lundi matin tu kiffes, t'as plus cette petite angoisse latente. Ça moi franchement quand j'ai pris conscience de ça, je me suis vraiment dit que je kiffais. Quand des super hôtels m'ont invité pour que j'aille les visiter et dormir là-bas, c'était cool aussi. Ça, c'était le petit kiff, ouais. Et plus récemment, malgré la pandémie, finalement, la pandémie, le côté positif qu'elle a eu, c'est que comme il n'y avait plus de voyageurs, j'ai un peu mis de côté la préparation de voyage pour me concentrer sur les aspects transversaux et stratégiques de l'entreprise. Mm-hmm. Chose que j'avais pas... Ça avait décollé super rapidement. J'avais pas, jamais vraiment eu le temps de me pencher sur la question. Et là, j'ai redécouvert des aspects de mon job que j'apprécie réellement et qui sont uniques à cette reconversion, au fait d'être entrepreneur, au fait de diriger, ouais. de choisir moi-même, de retrouver cette liberté qui était aussi, tu sais, être maître de son ouais. temps. Parfois, on entend beaucoup des gens dire ça et c'est vrai. De toucher au stratégique, de voir que tout ce que je prends comme décision a de l'impact, que c'est moi qui décide, c'est vraiment aussi un gros kiff.
Et à contrario, l'épreuve la plus difficile?
Alors, il y a peut-être deux choses. La première, c'est le Covid, la pandémie. Je pense qu'on peut s'imaginer plein de scénarios, plein d'épreuves, mais un scénario comme celui du Covid, moi, je ne l'ai jamais envisagé. C'est pire que le pire du pire du pire qui peut arriver.
C'est des scénarios ouais. catastrophes. Enfin, je veux dire, même les plus grands scénaristes, jamais ils peuvent prévoir un truc comme ça. Enfin, c'est...
Voilà.
Ouais.
Donc ça, franchement, dans l'adversité et le fait que t'as personne, enfin, ici au Chili, il n'y a pas d'aide de l'État par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment la plus grosse difficulté. Et le fait de recruter, ce n'est pas si facile. Et en fait, je m'en suis rendu compte par après, en parlant avec d'autres entrepreneurs qui m'ont dit, oui, c'est ça le plus dur, passer de 1 à 2, et puis après, de continuer à faire grandir, et finalement, c'est un peu ton entreprise, au tout début, c'est un peu ton bébé, donc tu sais pas trop comment
ouais,
le partager.
Ouais,
voilà. T'apprends, et puis après, donc ça, c'est de 1 à 2, et puis après, de 2, et dans mon cas, c'était jusque 4, c'était l'aspect, finalement, cette entité à part entière qui est l'entreprise a sa propre vie. Je suis acteur, c'est moi qui décide un petit peu, mais je ne peux pas tout contrôler. Ça, c'est sûr et certain, sinon c'est pour devenir fou. Donc, qu'est-ce que j'ai envie qu'est-ce qui est important comme valeur? Quelle ligne directrice je donne? Eh bien, ça, je trouve que ce n'est pas facile. En tout cas, pour moi, ça n'a pas été facile.
Non, ce n'est pas facile, mais qu'est-ce que ça doit faire grandir, quoi? Parce que le lâcher prise, on le lit, tu sais, dans tous les trucs de développement personnel, il faut lâcher prise. Il faut contrôler et lâcher prise en même temps. C'est ouh.
Ouais.
Pas évident.
C'est un défi du quotidien.
Alors, l'énergie pour rien lâcher, on l'a dit, le pourquoi.
Le pourquoi, ça c'est là, le fondamental. J'insiste vraiment pour moi et pour les autres que c'est, ouais. C'est fondamental. Mais un autre aspect, c'est quand même de se former continuellement, d'être attentif aux nouvelles méthodes, éventuellement aux nouvelles plateformes, technologies. Et moi, je lis énormément de livres. Je suis, par exemple, Live Mentor, qui est assez connu.
Bien sûr.
J'aime pas mal, je suis sur leur groupe, leur communauté. J'ai acheté quelques formations. Bah, leur formation, je trouve que c'est pas mal. C'est très orienté entrepreneuriat. Et moi, ça vient m'aider à rebondir parfois dans des petites difficultés. Et je me dis, ah, mais en fait, il y a des stratégies derrière, on peut faire ça. Et puis vraiment, à venir tester des nouvelles choses et être finalement constamment dans le mouvement. Et eux, parfois, recommandent des livres. Leur fondateur, Alexandre Dana, que tu avais interviewé.
Exactement, on l'a reçu, dans le podcast, Alexandre. Et leur newsletter, elle regorge de trucs. À chaque fois, on apprend quelque chose, quoi.
Ouais.
Donc, ouais, je recommande aussi.
Ouais, suivre quelques personnes inspirantes.
Ouais, ça nourrit ta flamme, en fait.
Voilà, ça nourrit et voilà, c'est ça. Je trouve que c'est quand même important pour pas s'enfermer, quoi. Parce que l'entrepreneuriat, ça peut être aussi un peu de la, entre guillemets, solitude. Mm. Et il faut sortir de ça. Et bah, en tant qu'expatrié, on n'a pas toujours un réseau d'autres entrepreneurs ici. Mais par contre, on peut s'en faire en ligne.
Ouais.
Et je trouve qu'il y a des réseaux d'entrepreneurs en ligne, expatriés. Mm. Ça, les autres sont aussi une inspiration.
Ouais, complètement, complètement. Alors, on va partir, si tu veux bien, au Chili. Tu vas nous emmener au Chili avec ta voix, avec tes mots. D'abord, bah, dis-nous les conditions pour voyager au Chili. Tu nous disais la meilleure période en début d'interview, c'est plutôt novembre. On va croiser les doigts pour qu'on puisse venir te voir.
Alors, bah, le Chili, qui est hyper long, qui fait quand même 4000 km de long, est composé de plusieurs climats. Donc, on a au nord le désert, notamment le désert d'Atacama, qui est le plus aride au monde. On a la région centrale qui a un climat méditerranéen, mais quand même un peu plus désertique que la Méditerranée qu'on connaît. Et tout au sud, on a la Patagonie. Donc, en Patagonie, on peut voyager de mi-octobre à mi-avril.
D'accord.
Dans le reste du pays, on peut voyager plus ou moins tout le temps, sachant que dans le nord, il y a quand même le petit bémol que fin décembre à au plus tard début mars, il peut y avoir l'hiver altiplanique qui provoque des pluies dans le désert d'Atacama, alors que c'est le plus aride au monde, donc il vaut mieux éviter. Mais donc globalement, on peut, d'ailleurs, il y a l'île de Pâques aussi qui est un territoire chilien, là c'est un climat tropical, donc on peut voyager quasiment toute l'année au Chili, ça dépend juste de où on veut aller.
D'accord, donc bah oui, il y a de l'espoir, on va venir te voir alors.
Oui. Génial. Je vous attends.
On le met dans sa bucket list. Bah, tu proposes des circuits sur mesure au Chili depuis plus de 3 ans, hein, tu le disais. Si tu devais choisir 3 mots pour décrire le Chili, quels seraient-ils ?
Alors, je dirais authenticité, parce que c'est moins connu.
Ouais.
Tout le monde parle de l'Argentine. On m'a dit que le marché touristique là-bas était 7 fois plus grand. Le Pérou, n'en parlons même pas. Mais le Chili, personne n'en parle. Donc, il y a quand même vraiment un côté authentique. Ensuite, je dirais nature ouverte, parce qu'on est vraiment dans cette nature brute. Par exemple, je ne sais pas, on pense au Grand Canyon, ben, c'est magnifique. C'est vraiment une beauté de la nature, mais c'est quand même encadré. Il y a des petits chemins. Voilà. Mm-hmm. Le Chili, c'est quand même encore avant ça. Et pourtant, c'est une nature exceptionnelle, juste impressionnante. Et un troisième mot serait sans doute la diversité des paysages, parce qu'on passe quand même du désert le plus aride au monde à la Patagonie, en passant par la Polynésie, si on peut appeler ça comme ça, qui est l'île de Pâques. Et ça, dans un seul pays, c'est assez exceptionnel. Je dirais que c'est ces 3 caractéristiques-là.
Et on peut aller comme ça du nord au sud sur un séjour ? Est-ce que tu as un circuit comme ça ?
Oui, j'en ai un. En 2 semaines, on peut faire Atacama Patagonie et ben on va cibler l'essentiel. Et en 3 semaines, on peut même rajouter l'île de Pâques, bon, qui est quand même à 5000 km. Hein, donc, mais après, bien sûr, il faut prendre des avions, c'est-à-dire qu'on prend un aller-retour pour aller à Atacama, un aller-retour pour aller.
Ah, mais si on est motivé, je suis sûre qu'il y a des auditeurs qui sont à fond là.
Voilà, et effectivement. Ah ben, c'est ça quand les gens m'en parlent. Au début, il y a toujours cette volonté peut-être d'aller constamment dehors des sentiers battus, de vivre des expériences différentes en tant qu'organisateur de voyage. Mais au final, il y a quand même pas mal de gens, et c'est tout à fait normal, on ne traverse pas l'Atlantique pour...
Juste pour deux trucs, quoi.
Ben voilà, on veut voir ce qu'il y a à voir, quoi. Voilà. Donc oui, je fais pas mal de voyages nord-sud, Patagonie. Ben, c'est exceptionnel, quoi.
Alors, s'il y a un site à pas rater, si on ne peut pas tout voir, il y a un truc à pas rater, ce serait quoi ?
Bah, du coup, ce sera forcément entre Patagonie et Atacama quand même.
Ouais.
Personnellement, j'adore les montagnes. Donc, j'aurais envie de dire Patagonie. Mais pour autant, si je me mets plus dans la position du voyageur, moi, je trouve que les paysages qu'on a à Atacama, on ne les a pas. Si je me mets dans la peau du voyageur européen,
ouais,
on n'a pas ça. Je trouve que c'est époustouflant quand on arrive au désert d'Atacama. Il y a plein de... D'ailleurs, je parle du désert, mais en fait, sur le désert, on a la vallée de la Lune, qui est plutôt une dune. On a les geysers, on a des lagunes, on a le salar en tant que tel. Donc, tu vois, c'est déjà hyper diversifié. Et ça, il n'y a pas ça en Europe, ni proche de l'Europe.
Non, j'en ai des frissons.
J'aurais tendance à conseiller ça, ouais.
Alors, c'est lequel le circuit qui a le plus de succès auprès de tes clients ?
Alors, mais c'est vrai que comme on fait sur mesure, ça fait toujours rire mon conjoint qui me dit « mais c'est pas possible qu'il n'y ait pas de circuit les mêmes ». Parce que je dis « mais si, il n'y a pas de circuit les mêmes, il y a
tendance, toujours
quelque chose qui est difficile ». Mais peut-être pas le plus qu'on vend le plus en quantité, mais par contre, c'est celui que j'ai envie de mettre le plus en avant parce que c'est un peu notre… Bon, je vais utiliser un terme un peu bizarre, à la Top Chef, mais c'est notre circuit signature. C'est un circuit sur la route australe. Et je suis super fière de ce circuit parce qu'on l'a bien travaillé. On a étoffé les gens avec qui on travaille sur place. Et en fait, c'est la Patagonie authentique. Ce n'est pas la Patagonie Torres del Paine, qui est magnifique, mais qui est la plus connue. C'est plus au nord. Et là, on a fait un circuit de dingue qu'on a orienté un peu plus famille, actif, parce qu'on peut faire dessus randonnée, équestre, rafting, marche sur glacier, croisière vers glacier. On a même maintenant trouvé un truc qui fait un bivouac. Donc, tu remontes un rio, enfin, une rivière qui te mène dans un lac dans lequel il va y avoir dans le fond un glacier. Tu fais un bivouac tout près. Enfin,
ouais, de surprise en surprise. Quoi.
Voilà. Et tout ça dans une Patagonie authentique, plus proche des gens. Je dirais que c'est le circuit. Et d'ailleurs, on travaille avec Evaneos. Enfin, on le propose sur Evaneos et ça marche. Alors que ce n'est pas des gens qui ont spécialement la route australe en tête. Donc, ça a quand même du succès.
Bon, est-ce que tu as calé dans tes circuits une rencontre avec Florent Pagny ? Il fallait que je le cale, ça.
Ouais, tu n'es pas la première.
Tu l'as pas, non ?
Non,
tu l'as jamais
on a... C'est pas faute d'avoir... avec l'équipe, on s'est déjà posé la question. On a déjà cherché sur Internet. Mais il est en Patagonie argentine.
D'accord.
Un peu plus au nord de El Chalten, je pense. Donc, El Chalten qui est un petit peu le dernier point touristique avant Bariloche. Donc, on a quand même en voiture, je pense, 35 heures entre les deux. Et je pense qu'il est perdu un peu là-bas. Je sais pas exactement.
Il va se cacher, hein. Enfin, forcément.
Mais ouais.
Alors, tu me parlais de l'Argentine ou le Pérou qui était beaucoup plus, on va dire, populaire chez les touristes, enfin au niveau du marché du tourisme. Alors, pourquoi choisir le Chili en comparaison avec un autre pays d'Amérique latine ? Qu'est-ce qu'on trouve au Chili qu'on ne trouve pas ailleurs, selon toi ?
Il y a quand même un aspect sécurité. Peut-être pas très sexy de vendre ça, mais par rapport à ces pays-là, ou même par rapport au Brésil, vraiment, le Chili, c'est le pays le plus développé. Et même d'ailleurs, par rapport à l'expatriation, c'est vraiment le pays le plus développé du continent et le plus stable, malgré les événements récents au niveau social. Mais donc, quand même, la sécurité, le fait qu'ici, on fait un road trip, il n'y a pas de souci.
D'accord.
Donc, ça, c'est quand même différent. Ensuite, sans doute, la diversité. Je dis souvent le Chili, un pays de terre de contraste. Je trouve quand même que c'est assez unique. Le fait qu'il y a moins de touristes, je l'ai mentionné aussi. Qu'est-ce qu'on trouve ici ? la grande possibilité aussi de faire des activités d'aventure. Ça, c'est très particulier. On peut quasiment tout faire, quoi. De l'escalade, du parapente. On l'a dit, rafting, il y a canyoning. Évidemment, randonnée, rando équestre. Je ne sais pas s'il y a un sport qu'on peut pas faire sous en parachute. Et voilà, en tout cas, c'est un pays dans lequel il faut aller pour le côté outdoor, expérience, paysage.
Bah, sympa. Moi, ça me donne envie en tout cas. Où est-ce qu'on peut retrouver tes circuits ou tu as un site internet, j'imagine, hein?
Oui, www.travelcoachchile.com. N'hésitez pas à visiter le blog pour tous les articles qu'on écrit. Voilà, il y a plein de gens qui ont juste envie de s'évader et de prendre de l'inspiration brute de voyage, c'est sur le blog. Si pour ceux qui veulent approfondir un petit peu, on a des sections destination où là, on détaille à fond. Puis évidemment, une section exemple d'itinéraire. On fait une newsletter aussi qui est sympa et les réseaux sociaux. Et les autres entrepreneurs savent que ce n'est pas facile de s'y tenir.
Il faut alimenter tout ça. Un grand merci. J'étais ravie de te recevoir dans ce podcast. Si ça peut t'aider, voilà, à gagner un peu en visibilité aussi, à reprendre, voilà, à relancer cette activité, même si ce n'était pas arrêté. Mais en tout cas, ça me fait plaisir. Et puis, donc, je remettrai bien sûr le nom du site web sur les notes de l'épisode, vous pourrez cliquer dessus pour aller voir. Et qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite, Florence ?
Je veux juste de garder la motivation et l'énergie pour mener à bien mes projets.
Merci pour voyager au Chili.
Merci à toi pour l'invitation, c'était un honneur d'être invitée et de pouvoir échanger. Et bonne continuation à toi aussi, et merci pour tout ce que tu fais.
Merci, à bientôt.
Ciao.
L'épisode touche à sa fin, merci pour votre écoute. Je voulais profiter de cette fin d'épisode pour te remercier, toi l'auditeur fidèle qui écoute le podcast mois après mois. Vraiment, ça me touche beaucoup les messages que vous pouvez m'envoyer pour me dire que le podcast vous aide à avancer dans votre chemin d'expatrié. Merci. Je vous réserve des petites surprises pour le mois d'août, donc... Restez connectés sur le podcast, mais prenez le temps, attention, de déconnecter cet été, hein, pas trop de réseaux sociaux. Prenez le temps vraiment de vous ressourcer. Pour moi, ça va être un été très particulier puisque l'année dernière, on n'a pas pu faire notre pèlerinage. Moi, j'appelle ça un pèlerinage, mais c'est vraiment ça. Pèlerinage annuel en France et aussi au Portugal, le pays de mes parents. Et voilà, c'est très important pour nous de transmettre cette double culture à nos enfants. Donc j'ai vraiment hâte de prendre la voiture. Alors depuis l'Angleterre, ça va être long, mais c'est aussi des bons moments de partage en famille entre deux crises de nerfs dans la voiture. Bref, en tout cas, avant de partir, j'ai aussi préparé la rentrée du podcast et fait des rencontres magiques avec des francophones expatriés à travers le monde dont j'avais envie de mettre en avant les parcours sur le podcast. Donc restez connectés, continuez à partager le podcast. Je sais que vous en parlez aussi autour de vous, à vos proches. N'hésitez pas à le faire découvrir. Et puis si vous avez quelques minutes pour laisser un avis, une note, ou si vous avez simplement envie de m'écrire, c'est avec plaisir. N'hésitez pas, je lis tout et je réponds systématiquement aux messages que je reçois. Je vous envoie plein de bisous et puis je vous dis à très bientôt. Bon été, ciao.